bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bienvenue dans le Homard 144.0. On dirait que c'est déjà le printemps. Le beau temps ici, tu pointé chez vous. Chez nous, sur l'île Perrot, il n'y a plus de neige au sol. Tout a fondu. Les osiers gazouillent, les cabots à bois, les écureuils sans contrarier. On dirait bien que c'est le printemps en avance. Bah, faut dire que la marmotte, elle avait annoncé ça. Je parle de la marmotte, mais en fait, il y en a un paquet. Il y a Fred, Willy, Phil, puis maintenant, il y a même une marmotte de la Gaspésie qui se met à prédire le temps qu'il fera. Elle s'appelle Tifred. Ouais, on est rendu avec une badge de marmotte, mais bon, elle a pour moins vu son homme. Je sais pas lequel, mais les nouvelles ont lâché que le printemps sera de bonheur. Donc, tenez-le au bout de gris, grâce à la science des marmottes, on nous annonce un printemps hautif. Dans mon coin, on a même un genre d'économuséum zoo. Le nom m'échappe, mais ils ont un ours. Et l'ours, il est sorti de son hibernation. Donc ça, c'est du solide. Si l'ours dit, c'est assez de dos, l'hiver est passé, je pense qu'on peut y croire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on débute ce Homard 144.0.
Tout partout dans nos villages, on reçoit l'hospitalité. Il n'y a pas de plus beau paysage que ce pays à chanter. Je suis gaspésienne, mes bons amis, et quand je suis loin, je m'ennuie. Je suis gaspésienne, mes bons amis, et quand je suis loin, je m'ennuie. L'on voit partout sur la grève les bateaux et les filets. Et quand les pêcheurs s'en viennent, on mange du bon poisson frais. Mes bons amis, j'en ai mangé, comme vous voyez, j'ai profité. Mes bons amis, j'en ai mangé, comme vous voyez, je suis en bonne santé. Quand ils s'en vont à la drive vers les 2h du matin pour aller pêcher du squid pour la boîte.
Bon, un petit fait divers pour débuter ce podcast 144.0. Saviez-vous que selon l'horloge de la fin du monde, on n'est plus qu'à 90 secondes de la fin du monde? Bon, c'est quoi avant tout l'horloge de la fin du monde? Je pense que j'en ai déjà parlé une fois dans ce podcast, parce qu'une fois par année, là, on reçoit un update là-dessus. C'est comme une mesure du temps qui reste avant la fin du monde, qui, selon cette horloge, la fin du monde, elle doit se produire à minuit. Donc, eux, ils nous disent là, sur le site combien de temps il reste avant que la fin du monde arrive. On est rendu à quelle heure? Donc, si on regarde le wiki de cette page, ça dit l'horloge de la fin du monde ou Doomsday, Doomsday Clock en anglais. C'est une horloge conceptuelle créée en 1947, peu de temps après le début de la guerre froide, et mise à jour régulièrement depuis par les directeurs du Bulletin of the Atomic Scientist de l'Université de Chicago, sur laquelle minuit, comme je vous disais, représente la fin du monde, donc ça représente l'apocalypse. Puis au fil du temps, selon ce qui se passe dans le monde, ben il y a juste l'heure. En fait, d'après ce que je vois là, sur le site, c'est une fois par année qu'il y a juste l'heure. Donc voici, s'instruire un peu, les derniers ajustements. Partons du départ, juste pour nous donner une idée de l'évolution de l'heure. Ça, donc, comme je disais, ça a débuté en 1947, création de l'horloge, et on a mis l'horloge à 23h53, donc 7 minutes seulement avant la fin du monde. Ensuite, on regarde les événements importants qui ont influencé l'horloge là, depuis ce temps-là. En 1949, ils ont réduit de 3 minutes. On est passé à 23h57, car cette année-là, l'Union soviétique a testé avec succès sa première arme nucléaire. Ensuite, 1953, les États-Unis et l'URSS testent des engins thermonucléaires à 9 mois d'intervalle. Donc ça, c'est suffisant pour dire qu'on avance l'horloge d'une minute. On était à ce point-là rendu à 23h58, 2 minutes seulement avant la fin du monde. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, on reçoit des bonnes nouvelles dans les années qui suivent. Quand ça s'améliore, évidemment, on peut reculer l'horloge pour montrer qu'on s'éloigne d'une possibilité de fin du monde. Donc, en 1960, qu'est-ce qui arrive? On recule de 5 minutes en réponse à une coopération scientifique accrue et à la compréhension du public envers les dangers de l'arme nucléaire. Même chose en 1963, on recule encore d'un autre 5 minutes car l'URSS et les États-Unis signent le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, limitant les tests d'engins nucléaires dans l'atmosphère. En 1990, bonne nouvelle, chute du mur de Berlin, ça nous donne un autre 4 minutes de lousse. 91, un autre bonne nouvelle, on recule de 7 minutes. Parce que l'URSS et les États-Unis signent le traité de réduction des armes stratégiques et dislocation de l'URSS. Puis c'est à ce moment que l'horloge est alors au plus loin de minuit depuis sa création. On est à ce moment à 23h43, parce qu'il y a eu d'autres petites affaires, là, je ne vous ai pas tout dit, des fois ça avançait un petit peu, des fois ça reculait un petit peu, je vous ai donné les plus gros. Mais maintenant, après ça, après 1991, l'horloge va quasiment juste avancer, signe que ça va pas trop bien. Bon, à cause de quoi? Danger clair et imminent de prolifération nucléaire, réchauffement climatique, tension dans le monde, tous des facteurs qui font avancer l'horloge. Donc aujourd'hui, en 2024, l'horloge est rendue à 23h58 30 secondes. Donc il nous reste 1 minute 30 secondes avant la fin du monde. Là-dedans, c'est quoi qu'il y a? Bon, il y a la guerre en Ukraine, c'est le dernier événement important qui avait fait avancer l'horloge de 10 secondes en 2023. Il y a aussi là-dedans une note sur la pandémie. Pour 2021-2022, l'horloge n'avait pas bougé, mais ils ont noté la mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie alertent sur les risques de menaces nucléaires et climatiques. Donc voilà! Tout ça pour vous dire qu'il est maintenant 23h58 30 secondes sur l'horloge de la fin du monde. Est-ce que c'est crédible? Ben, je sais pas. Je suis pas devin. Mais je sais de quoi. Une chose est sûre, c'est que l'apocalypse approche. Je l'ai lu dans ma revue là, Science et Vie la semaine passée. Dans 4 à 7 milliards d'années, ben, notre Soleil, qui est une naine jaune, il va être en fin de vie et bing bada boom, il va devenir une géante rouge. Et là, ça sera pas beau selon les scientifiques. Oh non, il va engloutir tout ce qu'il y a autour de lui. Mais ça, c'est compliqué à expliquer. Mais ne reculant devant rien, je pense pas que je l'ai déjà expliqué. Mais je peux vous le vulgariser rapidement, là, la fin du monde, un peu comme faisait là, Hubert Reeve, qui malheureusement nous a quittés, parce que sinon, c'est sûr, là, je l'aurais invité sur le podcast. Les scientifiques comme ça aiment venir dans mon podcast. Mais bon, vu qu'on n'a plus de Hubert Reeve, je vais vous vulgariser la fin du soleil en faisant une analogie, bon, peut-être sur quelque chose qu'on aime bien ici dans le podcast, une analogie avec le nanisme. Je vais essayer de rester sérieux. Donc, on va nommer notre soleil Trada Ufgood. Ça, c'est le nom de la femme de Willow là, dans le célèbre film du même nom. Donc, elle, ça va être notre naine jaune. C'est parce que, dans le fond, elle a un petit teint jaune, car elle a des problèmes de santé. Là. C'est dû, évidemment, accumulation de bilirubine dans le sang. Elle débute une journée. Donc, pour faire une analogie entre la fin du monde et la vie au village de Willow, c'est comme si un matin, là, Willow, avant de partir pour sauver le monde, lui demande à sa femme, Trada, si elle pourrait pas lui faire une bonne tarte au bleuet. Bon, moi, j'aime pas ça, là, je préfère aux framboises, mais Willow, lui, il est type bleuet. Bon, c'est pas du fétichisme, mais quasiment. Il savoure toujours sa première bouchée de tarte au bleuet, comme si sa vie allait s'arrêter. Là, lui, il sort la langue, là. Il se liche les babines. Mais ici, trop de détails. Revenons à Trada. Trada, bon, qui veut faire plaisir à son petit affreux, père de ses deux enfants, Ranon et Mims, doit sortir pour chercher les ingrédients. Bon, elle a besoin de quoi? Évidemment, elle a besoin de bleuet ou de myrtille. Bon, je dis myrtille parce que quand tu habites en campagne, bon, tu fais pas trop la fine bouche, là, tu prends ce que tu trouves en forêt, puis les myrtilles, c'est quasiment bleu dans le temps. Donc, au pire, elle se dit, si on trouve un petit peu de bleuet, ben, on pourra mélanger avec des myrtilles. Bref, Trada, elle se prépare à sortir. Et comme elle a divers problèmes de santé, connus et inconnus, évidemment, c'est ça un peu le nanisme, mais bon, c'est normal pour une naine, la maladie fait partie du quotidien. Donc, elle part déjà de la maison avec la pression un peu haute. Elle a les mains et les jambes un peu gonflées aussi. C'est douloureux. C'est pour ça d'ailleurs que Willow l'appelle souvent dans l'intimité, sa petite joufflue, et qu'elle lui demande souvent de le masser. Bon, et de pas seulement lui masser les jambes et les mains. Oh non, c'est une petite coquine, cette Trada. Mais bon, trop de détails ici. Revenons à l'essentiel. Donc, notre Trada, la naine jaune, est prête à sortir. Et là, Trada, qui, spécifions-le, plutôt que de m'écarter encore de la trame principale de mon histoire et de vous balancer que c'est une info-naine dans l'intimité, eh bien, spécifions-le, Trada adore le miel. Et oui, c'est ça, elle, son dada, elle adore le miel. Donc, Trada, elle pogne son bâton de marche, met son petit fichu rouge sur sa tête, puis prend son panier à fruits. Et là, elle sort de sa maison. Elle est prête, elle part finalement et se dirige vers son spot secret. Bon, bien sûr, en y allant, elle flâne un peu, elle prend le temps de saluer les autres affreux au village. Bonjour, chef du village, bonjour, bonjour, guerrier du village, bonjour, le puits du village. J'oublie leur nom de tous ces gens-là, mais c'est des détails, car j'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Donc, disons pour le bien de notre simulation ou vulgarisation, ben, elle arrive à son spot secret. Son spot qui, je dois maintenant vous le préciser, n'a aucun rapport avec les bleuets ou les myrtilles qu'elle est supposée venir ramasser. Non, son spot secret, El Trada, c'est comme un début de clairière en bord de champ où, surprise, il y a quoi? Eh bien, je vous le donne en mille, il y a une grosse ruche d'abeilles, oui, remplie de milliers d'abeilles. Et pour ceux qui suivent depuis le début mon histoire, se souviendront que dans la trame principale de mon histoire, j'ai précisé quoi que Trada, et oui, adorait le miel. Donc, la gloutonne n'a pas pu résister puis est venue se ramasser ou se voler, oui, si on peut dire se voler, un petit peu de miel avant d'aller faire sa récolte de myrtilles et de bleuets. Car elle, Trada, elle adore ça, le miel, c'est son dada. Menou, menou, du miel, c'est bon. Donc, imaginez-vous un instant la caméra narrative de notre histoire qui se déplace au-dessus de Trada et qui nous la montre en train de transporter une bûche de bois qu'elle laisse tomber près de la grosse ruche. Elle monte avec ses belles petites jambes joufflues sur la bûche, soulève le couvercle de la ruche. Et c'est là, bon, imaginez-vous que la caméra vous montre les beaux rayons de soleil qui remplissent la ruche. C'est plein de rayons de miel. Mais c'est à ce moment que la caméra tressaute. Comme surprise, oui, notre caméra est surprise. Car en essayant de voler du miel, ben Trada, montée sur une bûche ronde pour atteindre le centre de la ruche où se trouvent les beaux rayons de miel, eh bien, on voit lentement sur la caméra la bûche qui se met à rouler sous les pieds gonflés de Trada. Et on la voit lentement basculer dans la ruche. C'est donc là, dans notre analogie, qu'on voit la fin du monde approcher. C'est comme le début. Donc, c'est à partir d'ici que ça commence. Donc, je vous évite les détails scabreux, mais la gloutonne nymphonaine, mes bonnes cuisinières, nous réapparaît la face pleine de miel. Et la caméra narrative nous la montre après quelques minutes alors qu'elle parvient à se ressortir de la ruche. Mais bon, les abeilles, vous savez comment c'est, sont en sacrement. Ils l'ont piqué partout, partout. Et c'est là que Trada se transforme en géante rouge. Et oui, oui, elle a le visage tout déformé. Son joli visage qui, juste avant sa chute, avait encore ses jolis traits porcins, bon, qui faisaient d'elle l'une des plus belles du village quand même. Eh bien là, piquée de partout sur le visage, elle se met à enfler et à enfler. C'est un des symptômes, là, justement, pour ceux qui connaissent bien les abeilles et qui sont allergiques. Quand on se fait piquer, eh bien, notre corps, souvent, fait une réaction et l'enflure fait partie de ces réactions. Et plus tu es piqué, et plus ça t'arrive souvent, eh bien, plus la réaction est forte. Donc, Trada, ce n'est pas sa première fois qu'elle vient du miel, voler du miel. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle se fait piquer. Et donc, malheureusement, cette fois-ci, la réaction va être très forte. Bon. Qu'est-ce qu'a fait Trada? Eh bien, elle se sauve. Elle court vers le village des Nelwyn. Eh oui, elle est pas folle, elle reste pas à côté de la ruche. Puis là, elle réussit à revenir sur la place centrale, où, ameutée par ses cris, les affreux du village se réunissent autour d'elle. Bon, petit point technique ici, Trada, je vous l'ai dit, est très allergique aux piqûres d'abeilles. Puis grâce à un mélange de magie des arbres, de l'impact d'un schtroumpf qui passait au-dessus du village à ce moment-là sur une cigogne, et plein d'autres facteurs dont je vous passe les détails, eh bien, Trada finit par exploser. Car n'oubliez pas, on est en train de vulgariser la fin du monde. Donc, Trada finit par exploser et tous ces morceaux de chair vont s'éparpiller sur le beau village d'Enelwyn. Ce qui va la rendre, le village, oui, ça va rendre le village à terme inhabitable. Car le village, il va devenir l'épicentre d'une épidémie qui a été créée par un pangolin qui a mangé une chauve-souris qui, elle, avait mangé des morceaux de chair de Trada qui s'était accroché aux branches de certains arbres avant de se putréfier. Bon, et bon an mal an, le pangolin va pogner la fièvre, développer une maladie épidémique qui va refiler un enfant du village qui lui donnait des coups de pied puis qui finit par mort. Et la suite, c'est facile à deviner, la pandémie se répand, hein, au départ au village adjacent, ensuite un peu plus loin et toujours plus loin. C'est un peu comme le soleil qui, quand il va devenir une géante rouge, grossit, grossit, grossit en allant toujours un petit peu plus loin pour bouffer ce qu'il y a autour de lui. Bref, c'est un peu ça qui va arriver avec notre soleil. Quand il va être en fin de vie, il va tellement grossir qu'il va bouffer les planètes proches de lui et rendre les conditions de vie impossibles sur ceux un peu plus loin de la proximité. Donc, il n'y a que ceux qui vont s'être éloignés suffisamment qui vont pouvoir survivre. Donc, il nous reste environ 5 à 7 milliards d'années, comme je vous disais, là, pour aller sur d'autres planètes plus loin. C'est le temps qu'on a, en fait, pour se trouver là, un autre Valinor. Bon, Valinor étant la place où Frodon, lui, s'exile à la fin là, du Seigneur des Anneaux. C'est le genre de paradis des elfes. Donc, les humains, il faut essayer de trouver notre Valinor là, d'ici les 5 à 7 milliards d'années qui s'en viennent. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien vulgarisé là, pour vous cette analogie entre la fin du monde et le nanisme. Je ne sais pas si j'ai du talent là-dedans, mais je fais mon possible pour vous simplifier cela. Donc voilà, on part en musique et au retour dans ce Lobster 144.0, je vous parle d'inventions créées lors de la conquête spatiale qui nous servent dans notre vie de tous les jours. Donc oui, je suis un peu lancé là, dans les nouvelles scientifiques qui ont rapport avec le spatial dans ce Lobster. Donc si vous aimez ça, vous restez avec nous. Et on en parle au retour.
Cast it on.
bien écouter In Camera du groupe Yumizuna. C'est un groupe originaire de Canterbury, en Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, la Nouvelle-Zélande, je vous le rappellerai, c'est un endroit peuplé de nains dont les décors pittoresques ont servi à Peter Jackson à tourner, oh oui, plus de 150 scènes de sa célèbre trilogie. Maintenant, je suis tombé dernièrement sur un article qui parle des inventions spatiales qui font partie de notre vie de tous les jours. Bon, la recherche spatiale elle peut nous sembler très éloignée de notre vie quotidienne. Cependant, selon le début de l'article que je vais lire au complet dans quelques minutes, vous n'imaginez pas le nombre de technologies que la NASA ont créées et pour lesquelles on a trouvé des utilisations sur la Terre, puis qu'on croise presque tous les jours dans nos activités. Mais bon, avant que je vous en parle de cet article, prenons le temps de réfléchir un petit peu ensemble, avant que je lise l'article, parce que j'ai juste lu le début. Bon, est-ce qu'il y a des choses ou des inventions que vous utilisez, que vous pensez qui nous provient de la recherche spatiale? Bon, j'ai fait attention à ne pas lire l'article qui nous présente 13 inventions provenant de la recherche spatiale qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Je veux réfléchir avec vous avant de le lire. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être ces 13 inventions? Bon, je vais essayer d'en nommer 13 et je vais voir combien j'en ai deviné. Donc, je réfléchis. Oui. Qu'est-ce qui pourrait nous venir de l'espace? En un, je dirais, de quoi avec le linge? Comme les combinaisons spatiales. Il y a sûrement de quoi qui est lié avec ça. Un genre de tissu qui a été inventé pour l'exploration spatiale, genre des bobettes spatiales. Ils ont besoin de bobettes quand même, qui sont confortables dans l'espace. En deux, moi je dirais le baume à lèvres. Ou de quoi de cosmétique, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment pour le baume à lèvres, pour ne pas avoir les lèvres gercées dans la station spatiale. Bon, en trois, quoi d'autre? Je me rendrai pas à 13, là, j'aurai pas 13 idées, puis je suis déjà un petit peu tanné là, d'inventer. Donc, je dirais la nourriture déshydratée, ça, je suis pas mal sûr que ça nous vient de la recherche spatiale. Ensuite, en quatre, je dirais de quoi de lier aux communications. De quoi qui nous permet de parler entre la Terre et la Lune. C'est sûr que la NASA a mis au point des choses liées à ça. Ensuite, en 5, j'imagine qu'il y a des innovations sur nos voitures qui ont été développées pour améliorer les fusées. En tout cas, c'est soit les moteurs, soit nos vitres solides. Donc, il y a de quoi du style là, qui a permis d'améliorer les voitures grâce aux recherches de la NASA. En 6, bon, c'est le dernier que je trouve, je dirais de quoi avec l'énergie solaire. Donc, pour fournir du courant à la station spatiale, j'imagine là, qu'ils ne montent pas du gaz dans la station. Donc, ils font sûrement que la NASA, à l'origine, ont fait des recherches sur l'énergie solaire pour permettre d'alimenter la station. Donc voilà, c'est ça mes prédictions. Maintenant, on vérifie en lisant l'article ensemble. Bon, en premier dans l'article, les casques sans fil. Les casques sans fil d'aujourd'hui sont une version mise à jour de la technologie développée pour les astronautes dans les années 1960. Les casques utilisés par les pilotes d'avion étaient encombrants et inconfortables. Du coup, la NASA a commandé un casque qui pouvait être implanté dans le casque d'un astronaute. Donc, c'est avec ça que Neil Armstrong nous a parlé là, quand il a atterri sur la Lune. Puis que Buzz Aldrin, le deuxième, il essayait de parler, mais lui, il avait fermé son émetteur, parce que c'est juste le deuxième. Bon, c'est sûr que maintenant, les casques et les écouteurs sans fil, ça fait partie du quotidien, et Apple se fait une joie de nous les vendre super cher. Ben, j'ai vu mon garçon, il s'est acheté des AirPlugs ou je sais pas quoi. Moi, j'ai rien pour mon téléphone. J'utilise ce que le bureau me fournit là, pour travailler. Mais je pense qu'il a payé 300 quelques piastres pour des affaires qui se mettent dans les oreilles. Ouais, c'est cher. 2. Les semelles anti-choc. Une technologie développée par la NASA appelée moulage par soufflage de caoutchouc a inspiré dans les années 70 l'ancien ingénieur de la NASA Frank Rudy. Il a mis au point des membranes absorbant les chocs, remplies de gaz et intégrées dans les semelles des chaussures de course. Ils disent que c'est une toute technologie qui est à la base du système Nike Air puis qui a été par la suite adaptée par d'autres fabricants pour réduire les blessures d'impact. Bon, Moi, j'avais dit de quoi qui était lié au linge, là, avec mes bobettes spatiales. J'étais quand même pas trop loin des chaussures confortables. En 3, une des inventions de la NASA, la photo numérique de haute qualité, capteur CMOS. Des années 90, bon, la NASA cherchait de créer des caméras plus petites pour les vaisseaux spatiaux. Ils ont mis au point le capteur d'image CMOS, qui veut dire complémentaire à oxyde métallique semi-conducteur, qui a produit des photographies numériques de haute qualité. Au fur et à mesure que la technologie a été développée, elle a reçu une licence de Sony et de Samsung, et CMOS est maintenant une norme dans nos appareils numériques et nos téléphones. Ça, je ne l'avais pas prévu. En 4, les IRM et la radiologie. Le tomodensitogramme et la radiologie peuvent aider à diagnostiquer des maladies en produisant des images détaillées de nos organes internes. La technologie a été rendue possible grâce à la NASA lorsque le programme spatial développait des moyens d'améliorer les images de la Lune par ordinateur. Bon, moi j'avais le baume à lèvres, c'est pas vraiment ça. Donc pour celui-là, je ne l'avais pas vu venir. En 5, les fermes verticales. Les fermes verticales ne nécessitent pas de sol, utilisent peu d'eau, ils contrôlent la lumière, l'air, l'humidité et la température pour optimiser la croissance. La NASA a développé ça. Pourquoi? Bon, pour faire pousser des plantes dans l'espace. Bon, j'avais rien là-dessus. Je suis pas un bon devin à date. Non, Nostradamus Fred n'est pas très bon. Je vais prendre une gorgée de jus Lipton aux pêches, ça va m'aider. Ah, là, je viens d'augmenter mes pouvoirs de devin. D'après moi, la suite va être meilleure. En 6, les purificateurs d'eau. Dans les années 1960, la NASA a travaillé pour créer un appareil pour purifier l'eau potable des astronautes. Donc, ils font pipi, après ça, ça traite puis ils peuvent leur boire. Donc, ils utilisaient des ions d'argent pour tuer les bactéries sans affecter le goût. Donc, à la fin, ça goûte le pipi. Ah, c'est bon ça. La technologie a depuis été utilisée dans le monde entier pour l'eau potable et dans les piscines. Le système de marque Pantapure, qui a été utilisé pour purifier l'eau de pipi de Neil Armstrong lors des missions de la navette spatiale, est maintenant utilisé dans les maisons et pour les opérations de secours. Encore là, ça, je ne l'avais pas deviné. Je vais reprendre une gorgée de Lipton Peach pour m'aider. Le thé, c'est connu. C'est un agent aphrodisiaque qui augmente les capacités de devin. On arrive en 7, les thermomètres auriculaires. Les thermomètres qui mesurent l'énergie infrarouge émise par le tympan ont été développés au début des années 90 par Diatec Corporation, qui faisait partie d'un programme d'affiliation technologique au Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA. Les thermomètres étaient basés sur la technologie créée par JPL pour son satellite astronomique infrarouge, qui surveillait à distance la température des étoiles et des planètes à partir du rayonnement infrarouge qu'elles émettent. Quand même! Le thermomètre descend d'une recherche pour les satellites pour mesurer les affaires à la distance. C'est quand même bon. T'sais, nous, on descend du singe, ben, vous saurez maintenant que le thermomètre auriculaire descend d'une invention pour un satellite astronomique infrarouge. Encore là, je n'avais pas deviné. Donc, on va arrêter de boire du thé. Ça ne donne rien, on dira. En 8, les isolants thermiques, les super insulateurs utilisés dans les équipements tels que les manteaux d'hiver, les bottes, les sacs de couchage proviennent d'une technologie qui a été utilisée pour la première fois pour lutter contre les températures extrêmes dans l'espace. Un matériau appelé Radiant Barrier, développé par la NASA, est maintenant utilisé dans l'isolation des maisons. Donc, ça sert un petit peu à tout ça. On développe pour l'espace et ça finit dans nos maisons. En 9, les implants cochléaires. Les implants cochléaires peuvent donner une impression sonore aux personnes sourdes en utilisant des électrodes pour stimuler le nerf auditif. Une version rudimentaire a été testée en 1950 et l'idée a été développée par Adam Kissia, un ingénieur malentendant au Kennedy Space Center. Il avait travaillé sur des systèmes de capteurs de son et de vibrations pour la NASA dans les années 70 et avait utilisé ses connaissances pour développer l'implant qui change la vie. Donc, Là, j'ai un doute. Adam Kissa, tu sais, s'il y a des bobos dans les oreilles, là, moi, quand j'entends bobo, j'entends nanisme, j'entends multiples maladies. On va aller voir si Adam Kissa, ingénieur de la NASA, n'était pas un nain. Je prends 2 secondes pour aller voir dans Internet. Image de Adam, il est tout petit. Ou bien, il est à côté d'une grande personne. On va juste sur NASA Spinner. Bon, en tout cas, il n'est pas grand, puis il est magané, le bonhomme. Non, c'est pas un nain, mais c'est un petit pas grand. Fait que ça explique des choses. Donc, on revient. En 10, 10e invention qui nous vient du développement lunaire. La lyophilisation des aliments. Bon, ça, je l'avais deviné, c'est la bouffe déshydratée. Je ne vous lirai pas pour rien le texte, là, mais ils disent que, bon, ils réussissent à réduire de 98%. non, ils réussissent à réduire de 20%. Non, on va rewinder. En lyophilisant la nourriture, ils réussissent à réduire le poids jusqu'à 20% de ce que ça pesait au départ, tout en conservant 98% des nutriments. Bon, j'aurais dû le lire, là, tant qu'à faire des blou. Bon, on arrive aux trois derniers. Les couvertures de survie en aluminium, là, ceux qu'on met dans nos chars là, au cas où on reste en panne, qui sont maintenant utilisés aussi par les ambulanciers paramédicaux, ils viendraient de feuilles métalliques que la NASA a inventées dans les années 1960 alors qu'elle cherchait à isoler les vaisseaux spatiaux et à protéger les astronautes et l'équipement des changements extrêmes de température dans l'espace. En dose, un que j'aurais pas soupçonné, c'est le lait maternisé. Les recherches de la NASA sur l'utilisation des algues comme nourriture pour les voyages spatiaux prolongés ont conduit au développement d'un ingrédient nutritionnel appelé le formulaide. Il contient deux acides gras présents dans le lait maternel et qui sont maintenant largement ajoutés aux préparations de lait maternisé. Ah, quand même! Donc, évidemment, ils cherchent à bien nourrir nos astronautes qui tournent dans la station spatiale. Et ça mène à des inventions. Et finalement, on arrive en 13. Le dernier, c'est la mémoire de forme. Dans les années 60, la NASA a développé la mousse Tempur pour amortir les chocs et améliorer le confort des sièges d'avion pour ses pilotes. Elle a depuis utilisé ce matériau pour rembourrer les casques des joueurs de football, protéger les patients alités contre les escarres, comme les sièges moulés pour les personnes gravement handicapées. Bon, donc, on revient au nain. Et dans les matelas et oreillers en mousse mémoire à forme. Donc, OK, ça, c'est les utilisations sur Terre. Donc, maintenant, le soir, quand je vais me coucher, moi, dans mon matelas de mousse mémoire de 3 pouces que j'ai acheté au Costco et qui est très confortable, je vous le dis, eh bien, je vais me sentir comme si je dormais dans l'espace.
Ici, Vultan. Reçu fort et clair. Donne tes coordonnées.
Je chevauche sans boussole un scooter de l'espace.
Flash sans boussole sur un scooter de l'espace. Nous sommes sur Arboria.
Je t'envoie un rayon de rapatriement.
Merci, Vultan.
Et oui, une invention qui n'est pas dans l'article que je vous ai lu, c'est le scooter de l'espace qui, bien sûr, a été inventé par la NASA et qui a permis à Flash Gordon de chevaucher dans l'espace et de rejoindre je sais pas trop quel endroit. Donc, et on voit que certaines inventions de la NASA permettent aussi de tourner des films populaires ou cultes des années 80. Donc voilà, on part en musique et au retour, je vous parle de quoi? Eh bien, je crois que je vais vous parler de Cuba. Donc au retour, on parle de Cuba. Et pourquoi on parle de Cuba? Eh bien, je vous le dis au retour! est de retour dans le Lobster 144.0. On vient d'écouter le groupe Les Chiens, un groupe de Québec avec la chanson Le risque de l'habitude. Bon, maintenant je vous ai dit que je vous parlerais de Cuba. Pourquoi je vous parle de Cuba? Ben, j'ai un de mes garçons qui est parti à Cuba durant la relâche avec une amie et j'ai eu le goût de voir ce qui se passait dans ce coin-là. J'ai eu le goût de vérifier les nouvelles locales. Bon, en partant, je peux vous confirmer qu'il a fait beau toute la semaine de relâche. Il a fait entre 28 et 30 toute la semaine à Cuba. Mais le beau temps, c'est pas ce qu'on veut savoir. Moi, je veux savoir si M. Carlos, qui vend des sombreros, se trouve bien dans son patelin. Je veux savoir s'il y a des crocodiles qui ont mordu Miguel ou si le taux de rendement d'un champ de canne à sucre a augmenté avec la culture biologique. Voilà, je vais mettre dans le fond à jour mes infos sur les préjugés que j'ai de cet endroit. J'ai donc cherché sur Internet un site de nouvelles cubain pour voir ce qui se passe là, sur la plus grosse île des Antilles, où j'ai déjà été en voyage deux fois, je crois. Une fois à Noël, puis une autre fois... deux fois en tout. Bon, pour nos nouvelles, j'ai cherché un vrai site cubain, pas un site d'un autre place là, qui relate des nouvelles. Non, je voulais la vraie info pour vous. Donc, après quelques recherches, j'ai abouti sur havanatimes.org. D'après ce que je lis, c'est indépendant. Il y a un wiki là-dessus, ça dit Havana Times, un journal numérique cubain indépendant et un magazine en ligne fondé en 2008. La publication en ligne est éditée au Nicaragua. La plupart de ses contributeurs viennent de La Havane, Santiago de Cuba et de Guantanamo. Il existe également des contributeurs cubains. Donc, c'est un peu ça que je cherchais, de quoi d'indépendant, pas les nouvelles qui nous viennent des États. Donc, si on regarde le site, sur le site, on voit tout d'abord la photo du jour. Et pour aujourd'hui, c'est une photo de Mantazas, un jeune coupeur de canne d'environ 30 ans. On le voit avec son chapeau de paille, sa machette en train de couper de la canne à sucre. Il n'a pas l'air de super de bonne humeur. Il a même l'air un petit peu triste sur sa photo, puis il est quand même assez maigre. Donc, c'est ça la photo du jour. C'est la photo de Mantaza, le garçon triste qui coupe de la canne. Bon, en plus, il a l'air d'avoir faim, le pauvre. Bon, allons voir du côté des nouvelles maintenant. Ah non, pas encore. Sur le site, on a la chanson du jour qui suit la photo du jour. Bon, c'est quoi la chanson du jour? C'est Carlos Barbosa Lima. C'est un artiste brésilien. Il va falloir l'écouter. C'est la chanson du jour, il faut l'écouter. Avec sa chanson Guindo Santar Sola, qui veut dire j'ai du poil qui me pousse sur le menton. On va l'écouter un petit peu et ensuite je vais le laisser en background. On l'écoute. C'était la chanson du jour. Bon, on a eu la photo du jour, la chanson du jour. Est-ce qu'on a aussi la recette du jour? Non, mais quand même, on a un article qui parle de bouffe. Donc, allons-y avec ça. Donc, ça titre comme suit. Havana Times. Trois vendeurs de cornets de neige près d'un centre commercial de la Havane devront chacun payer une amende de 1500 pesos, l'équivalent de 60 de leurs produits. Bon, pour nous, c'est 1500 pesos, c'est 120 $. Les individus opéraient à un coin stratégique de la rue Arbol Seco, un endroit où les acheteurs font la queue pour entrer dans le centre commercial Carlos III. Lorsqu'ils ont été approchés par deux inspecteurs en civil, un homme et une femme, après leur avoir infligé une amende, les inspecteurs ont ordonné aux vendeurs de déménager vers un autre endroit. Les vendeurs se sont mis en colère, non seulement parce qu'ils détenaient des licences d'exploitation valides, bon, quand même, c'est moche de se faire arrêter si t'as un permis, là. Mais aussi à cause de la raison invoquée par les inspecteurs pour leur infliger une amende. En tant qu'opérateurs de charrette, ils sont tenus de continuer à se déplacer. Ils ne sont pas autorisés à rester au même endroit. Puis là, il y en a un qui a dit « Et comment suis-je censé servir les clients pendant que je marche? » a demandé un vendeur irrité. « Il faut s'arrêter, même si c'est pour 5 minutes. » Bon. Un autre vendeur a dû être calmé par quelqu'un qui semblait être sa femme, sa brasse, là, en lui disant de ne pas discuter avec les inspecteurs. « Écoute, tu vas payer l'amende et tu continueras, alors ne t'inquiète pas. » Des policiers en uniforme sont également intervenus pour désamorcer la situation en lui disant « Va là-bas, rue Manglard, de l'autre côté ». Après s'être éloigné de quelques pâtés de maison, le vendeur est revenu à l'endroit où il avait été condamné à une amende en disant « Je m'en fiche, je vais continuer à vendre la glace pilée pour 25 pesos ici parce que j'ai un permis et s'ils ne veulent pas que je m'arrête ici, je déménagerai dans un autre coin », a-t-il déclaré. Bon, on dirait que les vendeurs se font harceler dans ce coin-là. La police n'a pas l'air gentille. On continue. Quoi d'autre? Un article sur les opticiens. Allez, on continue de s'informer. La télévision Mantasa salue le travail de la société privée Supervision malgré les prix élevés. Les déclarations à la presse officielle de Gilda Tapanes, administratrice de l'entreprise nationale d'optique de la Calle del Medio à Mantasa, laissent peu de doute sur son opinion sur les entreprises privées d'optique qui éclipsent celles de l'État. « Notre clientèle a été volée », dit-elle, « même si son service est de très bon marché. » Cependant, les témoignages d'autres dirigeants, opticiens et clients interrogés par Giron montrent clairement que les ateliers de l'État n'ont plus rien à offrir depuis 2020, date à laquelle ils ont reçu leur dernier lot de verres et de montures. Donc, ce que je comprends de ça, c'est qu'il y a des compagnies privées là, qui s'occupent de vendre des lunettes aux Cubains, parce que l'État, bon, c'est quelque chose qui est géré par l'État, mais ils n'ont plus de verres et ils n'ont plus ce qu'il faut pour l'en fournir. On continue l'article. Dans la prétendue concurrence que décrit Tapanès, les opticiens d'État sous-approvisionnés ont perdu la tête. Alors que les 13 ateliers provinciaux manquent de bras, vis, bornes, lentilles, bon, ils manquent de tout, des entreprises privées comme Supervision, qui a reçu un rapport enthousiaste en juin dernier, proposent tous les services possibles. Avec un petit espace d'accueil et un personnel jeune, indique le journal officiel, Supervision continue de recevoir des clients et envisage de s'étendre à d'autres communes. Ils travaillent avec sécurité et confiance, insiste Giron, et même s'il ne les soutient pas nécessairement, la conclusion est que ce sont les entreprises privées qui soutiennent aujourd'hui la production de lunettes à Mantasa. Je vais juste aller voir c'est où Mantasa. On va prendre 2 secondes. Mantasa. Mantasa, c'est où? Mantasa. Avec un S. Mantasa. C'est à côté de la Playa de la Vigia à Varadero. OK. Donc, c'est bien à La Havane. C'est bien à Cuba. Près de, comme je disais, près de Varadero. Donc, on retourne à l'article. Avec les propriétés présente des vitrines vides qui obligent les clients à acheter auprès d'entreprises privées comme Supervision et Giron. En seulement 10 jours, Supervision, pour un prix allant de 5 000 à 10 000 pesos, obtient les verres et la monture appropriée avec l'aide du bureau du conservateur de Mantasa qui facilite les importations. Oh là là, on dirait que quelqu'un qui facilite les importations, il doit se faire un petit peu d'argent. Faire passer les lunettes par l'État, caractérisé par la précarité, est un casse-tête, dit Giron. C'est le cas de Gabriel Rodriguez de Mantasa, interviewé par le journal, dont le fils souffre d'une grave déficience visuelle et avait besoin de lentilles spéciales. Les ateliers de l'État, dit-il, n'ont pratiquement rien. Même pour les réparations, les pièces détachées se font rares, sans parler de leur fabrication. La pénurie est généralisée et concerne les montures et les verres. Dans notre cas, il n'y a aucun moyen d'obtenir des lunettes offrant la profondeur de vision dont l'enfant avait besoin. L'opticien n'avait pas de matériel, mais il connaissait un atelier sans licence qui pouvait garantir un bon travail pour 16 000 pesos plus que le coût des montures. Rodriguez s'est retrouvé dans une entreprise privée et les lunettes de son fils lui ont coûté 12 000 pesos. Ça, c'est pour nous, c'est 1 000 $. Donc, je pense que c'est un gros montant là, pour les Cubains, 1 000 $, là, 12 000 pesos. Mais son odyssée ne s'arrête pas là. Lorsqu'il est allé vérifier à l'hôpital pédiatrique que la gradation des lentilles était correcte, le numéro ne correspondait pas avec la prescription, l'entreprise a tenté de le rassurer. La machine hospitalière n'est pas calibrée et donne des erreurs. Rodriguez ne savait pas qui croire. On dirait une mauvaise histoire. Il se fait faire des lunettes puis ils ne correspondent pas à mesure que l'enfant a besoin. Puis là, la compagnie dit « Non, c'est l'hôpital qui n'est pas bon. » Oh là là. On continue. Recevoir des lunettes de l'État caractérisées par la précarité est un casse-tête. Pedro Tanquero Rina, directeur provincial de l'entreprise de pharmacie et d'optique, reconnaît qu'il n'y a pas de solution au problème. Il n'y a ni financement ni ressources, dit-il. Les ateliers sont fermés depuis environ 4 ans à cause des matières premières et des pièces de rechange qu'il n'est pas possible de se procurer parce que tout s'achète en dollars et que les services d'optique dans le monde sont chers. OK. Bon, c'est sûr que les États-Unis ont l'embargo, mais au Canada, il n'y a pas d'embargo, ils pourraient acheter là, mais là, j'imagine que c'est trop cher. Giron termine l'article en accusant, bien sûr, le blocus américain bord et en affirmant que malgré les demandes voraces du marché qui prévalent à Montaza, à un moment donné, l'État devra commencer à faire payer les lunettes, même si la gratuité des soins de santé était l'une des plus grandes réalisations du système social cubain. OK, ça fait que les lunettes sont gratuites quand tu passes par l'État, mais tu n'es pas capable d'en avoir parce qu'ils n'ont pas de pièces. OK. Mais là, ils disent depuis 2020, ça correspond à la pandémie là, qui semble avoir aggravé les choses. Bon, pendant ce temps, pour la plupart des Cubains de Montaza qui voient les prix des entreprises privées monter en flèche, mais qui sont quand même prêts à payer n'importe quoi lorsque leur enfant est impliqué, ils sont confrontés à un dilemme. Ils doivent choisir entre manger ou améliorer la vue de l'enfant. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la fin de l'article. Je vous rappelle qu'ici, nous, le gouvernement nous rembourse 300$ tous les deux ans pour les lunettes de nos enfants. Je viens juste de changer celle de mon plus jeune garçon et en deux jours, le gouvernement m'avait remboursé le 300$ des lunettes que j'avais payé 450$ chez l'optométrice. Ouais, j'ai juste eu besoin d'aller sur le site du gouvernement, dit j'ai acheté des lunettes pour mon garçon dans un endroit, un opticien, puis ils m'ont viré l'argent. Ben, ils m'ont envoyé un chèque. Fait que ça a pris une semaine, là, je dis deux jours, mais j'ai eu l'argent assez vite. Bref, on est chanceux ici. Puis en plus, on n'a pas de doute sur la force des lunettes. Là. C'est quand même triste de voir que des choses de base là, ne sont pas fournies aux enfants cubains. Bon, on va essayer de se trouver une dernière bonne nouvelle, de se trouver une bonne nouvelle avant la fin. Bon, je vais essayer de trouver de quoi de joyeux, car les sites de nouvelles, c'est partout pareil, même ici. Là. On dirait que les bonnes nouvelles du jour sont pas souvent là. On nous montre beaucoup plus de mauvais que de beaux. Et moi, c'est le beau que je veux voir. Bon, je pense que j'ai trouvé de quoi d'inspirant. Le titre de l'article. Final, je suis sûr que vous allez aimer, ça rejoint un des sujets qu'on adore là, dans le Lobster. Une histoire inspirante de jeunes nains cubains surmonte l'adversité pour se qualifier aux Jeux olympiques en natation. Dans un récit émouvant de détermination et de courage, un groupe de jeunes nains cubains a surmonté d'incroyables obstacles pour se qualifier aux prochains Jeux olympiques en natation, une première dans l'histoire de Cuba. Affligés par une maladie rare qui affecte leur taille et leur mouvement, bon, ça c'est une nanisme, hein? Eduardo Lopez, Maria Torres et Miguel González et Ana Martinez, ces jeunes athlètes ont été confrontés à des défis inimaginables dès le début de leur parcours sportif. La natation, une activité qui semble déjà intimidante pour beaucoup, est devenue un défi encore plus grand pour ces jeunes courageux. Malgré leurs conditions physiques et leurs diverses limitations, ces nageurs ont fait preuve d'une détermination inébranlable. Ils ont passé d'innombrables heures à s'entraîner dans les piscines locales, repoussant les limites de leur capacité à chaque coup de bras raccourci, à chaque coup de pied velu. Leur parcours vers la qualification olympique a été semé d'embûches, mais Eduardo, Maria, Miguel et Ana ont refusé d'abandonner. Ils ont trouvé force et inspiration les uns dans les autres. C'est beau ça. Formant une équipe soudée qui a démontré que rien n'est impossible lorsque la volonté est inébranlable. Eduardo, le capitaine de l'équipe, a même été renversé par une chèvre blanche nommée Blanquita alors qu'il se rendait à la piscine pour s'entraîner. Malgré cet incident, Eduardo a continué à persévérer utilisant cet événement comme une source de motivation supplémentaire pour atteindre ses objectifs. Lors de l'accident, il se serait exclamé Wene habría pensado que mi mayor adversario sería una cabra blanca, que je traduis amicalement par « Qui aurait pensé que mon plus grand adversaire aurait été une chèvre blanche? » Quant à Maria, elle a dû faire face à un défi particulièrement difficile. Bon, qu'est-ce qu'elle a eu? Un jour, alors qu'elle préparait un ragoût cubain traditionnel appelé « ropa vieja », composé de bœuf, de poivrons, d'oignons et de tomates, un accident cuisant ses produits. Une éclaboussure d'huile brûlante provenant de la poêle a atteint ses yeux, causant des dommages irréversibles à sa vision. Cependant, loin de la décourager, cette épreuve a renforcé sa détermination à réussir dans la natation, transformant son handicap en une force motrice pour surmonter tous les obstacles sur son chemin. À sa sortie du dispensaire où elle a été soignée, Maria se serait exclamée « Quene hubiera pensado que mi coxina me elvería a ver el mundo de manière différente » que je traduis amicalement par « Qui aurait pensé que ma cuisine me conduirait à voir le monde différemment ?» Maintenant, avec leur qualification confirmée pour les Jeux olympiques, ces athlètes cubains sont prêts à défier les attentes et à inspirer le monde entier. Leur histoire captivante est un témoignage de la résilience humaine et de la capacité à surmonter les obstacles avec courage et détermination. Eduardo, Maria, Miguel et Anna sont prêts à faire des vagues aux Jeux olympiques, non seulement dans la piscine, mais aussi dans le cœur de millions de personnes à travers le monde, prouvant que la véritable grandeur réside dans l'esprit, pas dans la taille ou la vue. Donc voilà, on devrait les voir du 24 juillet au 4 août 2024. Ça, c'est la date à laquelle vont se dérouler les épreuves de natation aux 33e Jeux olympiques de l'ère moderne qui se tiendront, comme vous le savez, à Paris. Voilà, je pense que c'est tout pour ce Lobster 144.0. On se retrouve bientôt, même poste, même heure, dans les Traboules, pour poursuivre la suite des aventures du Lobster. Donc, on part en musique, et sur ce, je vous dis à bientôt.
C'est vrai ce qu'on dit? Que le seigneur Perceval est introuvable?
Oui.
Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose?
Non.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Le seigneur Perceval ne se met jamais en situation dangereuse. Pour ça, il fait preuve d'une intelligence redoutable.
Eh ben, qu'est-ce que c'est que ces tronches que vous tirez?
On a gagné bon chance, et pourtant pas si souvent.
On a intercepté un messager, Siré.
Ouais, mais je vous préviens. Ça va vous faire un choc.
Pas vrai?
Un problème, sire?
Perceval est mort.
Quoi?
Vous êtes sûr que c'est pas du flan?
Ben, vous voyez, c'est son oncle qui crie.
Et justement, il était chez son oncle. Non, il n'y a pas de doute possible.
Putain, il est mort, ce con-là.
Vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir?
Je suis pas dans mon assiette.
Je me suis dit, mange un quignon de pain. Ça passe pas.
Y a pas à dire, ça fait quand même quelque chose.
Eh ben moi, alors bon, vous allez peut-être dire que hein, je deviens louf, mais j'ai l'impression qu'il me parle.
Non, moi aussi, ça me le fait.
Oh non, moi non.
Alors au début, je croyais que c'était un rêve. Eh ben non, même réveillé, assis sur le plumard, tout, eh ben j'entends des trucs.
Mais quoi comme trucs?
Je sais pas, comme des conseils qu'il me donnerait, quoi.
Moi, pareil.
Des conseils comment?
Ben, c'est lui qui m'a dit de venir ici, par exemple.
De venir où? À la cuisine?
Ouais, c'est comme si j'entendais sa voix.
Non, mais moi, c'est mieux que ça, quand même. C'est comme s'il m'encourageait à repenser certaines choses, vous voyez, la table ronde, tout ça, comme si je m'étais trompé, quelque part.
Il la fallait pas ronde, finalement.
Il faut sans arrêt corriger les choses. Ne jamais se reposer sur ses acquis. Voilà, c'est ça que j'ai l'impression.
Il vous dit vraiment ça?
Non, mais c'est moi qui ressens ça, je vous dis que c'est flou.
En tout cas, il est là. Il nous parle.
Ben, il me parle pas, moi. Peut-être qu'il se dit que je vais l'envoyer chier.
On va reprendre les choses en main, Seigneur Lancelot.
C'est-à-dire, sire?
Je crois que j'ai eu une petite baisse de foi ces derniers temps. Vous savez, le Graal, il y a des jours, il me paraît tellement loin.
Qu'est-ce que vous comptez faire, sire?
Perceval me parle. Croyez-le ou non, c'est comme ça. Si lui a pu me redonner la foi, je dois pouvoir la redonner aux autres.
Et si notre cœur n'était pas assez pur? Si nous n'étions pas dignes de convoiter le Saint Graal?
Je sais que nous sommes de taille.
Comment pouvez-vous en être aussi sûr?
Perceval me le dit.
Et c'est pour ça que le Graal n'est pas une simple coupe, vous comprenez?
Oui, mon oncle.
C'est magnifique.
Sire!
la vache, non seulement je l'entends, mais je le vois maintenant.
Et moi ?
Mais vous êtes pas mort, espèce de connard ?
Non, mais comme j'étais hyper malade, j'ai dit à mon oncle, écrivez-leur que je suis mort, ça sera fait. Puis finalement, j'ai gerbé, et là, ça va mieux.
Oubliez ce que je vous ai dit, le Graal, c'est de la merde.
Excusez, il y a moyen de vous entretenir deux secondes ?
Oui, c'est à quel sujet ?
Non, c'est parce que je suis passé par hasard, hier matin, devant vos enclos.
Oui, tout à fait.
Et j'ai vu que vous avez une jolie petite poule blanche, là.
Une poule blanche, oui.
Oui, une poule blanche bien mignonne, vous voyez, le bel animal.
Bien sûr, c'est au sujet de quoi est-ce ?
C'est au sujet qu'en fait, c'est la mienne, et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent.
Mais tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine, et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice.
J'ai pas ma poule dans 5 minutes, votre barrette part en fumée.
Mais faut rentrer chez vous, là, monsieur. Faut laisser travailler les honnêtes paysans. Sans ça, vous allez récolter des fauches dans le cul.
Dernier ultimatum. Si vous livrez pas la poule, ça intègre toute la vallée. Bon, attention, hein. Vous avez affaire à un passionné de violence. Je suis à votre place, je me méfierai.
Oh, bonne merde. La tuile. Je suis bien confus. Eh ben, votre poule, elle est entièrement décédée. J'ai retiré la tête du reste, pas plus tard ce matin. J'espère que ça va pas vous faire défaut.
Vous avez tué ma poule? Mais comment? Et tous n'êtes pas un peu marteau? Parce que là, moi, ça y est, hein. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre, hein. Moi, je bondis, comme ça, là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention, hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie.
Eh ben, moi, votre poule, j'ai donné à becter à mon chien. Et ça sera le même programme pour vous, Mich, si vous décarrez pas d'ici.
Non, mais c'est bon. Il n'y a rien à regretter, vous êtes un malade. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Hein, si vous pouvez tâcher moyen de vous éloigner de 25 pieds, bon pied, hein, parce que ça va gicler un peu. Non, mais je suis venu simplement pour vous prévenir, pour pas qu'il y ait de malentendu. Je me suis vu dans l'obligation d'empoisonner une grande partie des vaches et des moutons de la région.
Empoisonner les vaches ?
Et les moutons aussi. Mais pas tous, hein, moi, j'ai fait une sélection, quoi.
Une sélection ? Mais une sélection selon quoi ?
Ben, selon les propriétaires. Tous les propriétaires qui s'appelaient Roparz et qui habitent en face de chez moi, hop, poison. Non, mais ça m'a fait mal au cœur. Hein.
Vous êtes complètement dingue !
J'étais condamné, de toute façon.
Condamné par quoi ?
Mais par moi ! Je les avais condamnés. Alors méfiez-vous, hein, voilà, selon d'où viennent les bêtes, vous risquez de tomber un peu malade si vous mangez de la viande de vache ou de mouton dans les semaines prochaines.
Et vous vous rendez compte que je pourrais parfaitement vous faire descendre au trou pour un truc pareil ?
De vache ou de mouton, mais on bouffe que ça !
Ah oui, et le lait aussi !
Le lait aussi ?
Ah bah le lait, ça vient des vaches, c'est quand même pas de ma faute.
Heureusement, il y a encore le lait de chèvre, au moins pour les mômes.
Bon, les chèvres, c'est bien pareil. Hein.
Mais vous avez dit les vaches et les moutons.
Ah ben les chèvres aussi, j'avais oublié, quoi, ouais. De toute façon, ce qu'il y a mieux pour les mômes, c'est le lait d'ânesse. Voilà.
Oui, sauf que des ânesses, on en a pas autant que des chèvres.
Oui, non, mais en plus, je vous dis des conneries. Parce que les ânes, je comptais les empoisonner en rentrant le soir, alors...
Mon Dieu, et tout ça pour se mettre sur la tronche avec l'autre crétin. Je devrais vous envoyer tous les deux aux galères pour 25 ans.
Mais je devrais. Vous commencez à nous faire chier avec vos conditionnels. Balancez-moi ces deux cons aux galères et qu'on n'en parle plus.
Bah, tant qu'on nous envoyait aux galères, essayez de pas nous mettre dans la même. Bah, ça risque de partir en vrille avant qu'on soit sorti du port.
Bon, on va vous donner un antidote pour les bêtes empoisonnées. Vous allez partir avec et vous avez la soirée pour vous rabibocher avec l'autre débile. Si demain matin c'est pas fait, vous pouvez préparer vos valoches. Je vous garantis que vous allez voir du pays.
Ouais, c'est pas mal. Seulement, il y a encore une porte de sortie. Si demain matin, tatati, tatata, non, moi je dis galère, direct.
Alors voilà, c'est l'antidote. On soigne vos bêtes, on efface l'ardoise et merci, monsieur, dame.
Bon, vous m'avez fait venir pour me présenter vos excuses, c'est ça ?
Je vous présente l'antidote. Alors prenez ce qu'on vous donne et arrêtez de nous souffler dans les narines.
Mais tout à fait. En parlant d'antidote, hein. Je souhaiterais vous suggérer un endroit où vous pourriez éventuellement vous le carrer. En vous remerciant.
Mais y a pas de... Oh. Ah, là c'est la galère.
fading as your thoughts give way to the peaceful sound of the night. And in your head someone saying, I love you. The journey is only beginning, and still in my mind I can hear someone singing of all of the things that they said life was bringing to you.